Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Revière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mardi 2 mars, on vaccine à tour de bras. Les 65-75 ans avec risque de comorbidité y auront enfin accès. Et la Haute Autorité de Santé souhaite que les pharmaciens, infirmiers et sages-femmes puissent aussi y participer à cette grande campagne. Le parquet national financier ne fait pas de politique. On n'est pas dans une situation de vengeance. Déclaration ce matin sur RTL de Jean-François Bonner, le procureur national financier, après la condamnation de Nicolas Sarkozy à 3 ans de prison, dont un enferme. L'avocate de l'ancien président Jacqueline Lafont est l'invitée d'RTL Midi. Bonjour madame.
Bonjour.
On vous retrouve dans quelques instants. Dans ce journal aussi, la pédophilie est un crime de masse. Déclaration ce matin du président de la commission indépendante qui enquête sur les abus sexuels dans l'église. Plus de 6500 témoignages ont été collectés. Et puis le coup de cœur de nos correspondants nous emmènera dans l'Ain où une jeune femme cherche à retrouver l'homme qui lui a sauvé la vie. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Encore un bon bain de soleil.
Et oui, on profite d'un beau ciel bleu sur une large moitié est du pays. Alors, c'est plus voilé à l'ouest, mais l'impression reste belle, sauf sur la pointe bretonne où là c'est nuageux, avec quelques gouttes. Et puis à l'intérieur de la Bretagne, pays de la Loire, jusqu'au Limousin, là le ciel est bien voilé, donc plutôt laiteux. Il peut y avoir également un peu plus de nuages sur le Roussillon avec du vent, tout ça sous des températures encore printanières, de 10 à Cherbourg à 20 à Biarritz, 17 à Paris, Reims, Mulhouse, Marseille et 19 à Bordeaux.
La question du jour sur RTL.fr. Nicolas Sarkozy a-t-il été jugé comme n'importe quel Français? Vous êtes 29% à nous dire oui, il y a 66% de non, ça fait quasiment du 2/3, 1/3. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Christelle, évidemment on parlera longuement de ce jugement entre 13h et 14h30. L'autre sujet du jour, c'est le confinement le week-end proposé par Anne Hidalgo, ou plus exactement, elle souligne que ce confinement est inhumain. Et on a peut-être du mal à suivre Anne Hidalgo parce qu'il y a quelques jours, elle souhaitait que nous soyons confinés tous pendant 3 semaines. Emmanuel Macron demande de tenir encore 4 à 6 semaines. Est-ce que vous allez pouvoir le faire? Le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Plâtré, défie l'État. Il autorise une fête foraine alors que le préfet a dit non. Et puis Serge Gainsbourg, c'était il y a 30 ans, 2 mars 91. Quelle est votre chanson préférée? Tout cela au menu des auditeurs.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Nicolas Sarkozy aura donc été le premier président de la 5e République condamné à de la prison ferme. 3 ans, dont un enferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Avant lui seul, Jacques Chirac avait été sanctionné. 2 ans de prison avec sursis dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. Nicolas Sarkozy fait appel, tout comme ses 2 co-accusés et à ses proches qui dénoncent une justice politique. Jean-François Bonner, le procureur national financier, a répondu ce matin sur
Le PNF ne fait pas de politique. Le PNF ne connaît pas non plus d'infractions politiques. Le PNF connaît des infractions économiques et financières qui ont parfois l'apparence, et c'est là que revient l'adjectif politique, par la qualité politique des personnalités que ces procédures peuvent mettre en scène. Mais pour le reste, nous ne faisons pas de politique et nous ne cherchons pas à entrer dans un débat quelconque. Si des infractions sont constituées, c'était la thèse du parquet, c'est aujourd'hui la thèse du tribunal. Eh bien, nous ne pouvions pas faire autrement que de poursuivre et de requérir la condamnation. C'est ce que je fais pour chaque citoyen. Lorsqu'il y a quelques années, j'étais en tribunal en région, au tribunal de Strasbourg, lorsque je requérais contre des voleurs à la roulotte, je le faisais exactement de la même manière, de façon proportionnée aux faits commis.
Vous nous dites que Nicolas Sarkozy a été jugé comme n'importe quel Français.
Je l'affirme haut et fort.
Jean-François Bonner, qui était l'invité exceptionnel d'Yves Calvi ce matin sur RTL. Alors, aucune peine d'inéligibilité n'a été prononcée contre l'ancien président. Et pourtant, celui qui est toujours considéré comme un recours à droite voit son avenir politique singulièrement bouché. On se demande même s'il n'est pas un peu déjà derrière lui, Marie Mollet.
Oui, car on n'imagine pas un candidat condamné en première instance avec une peine aussi lourde se présenter à la présidentielle, même s'il s'appelle Nicolas Sarkozy. Et le calendrier judiciaire est très serré. Il faut compter une bonne année pour que le procès en appel soit audiencé. C'est en général le temps qu'il faut à la justice. Cela nous amène, et oui, en 2022, juste avant la présidentielle, peut-être même pendant. Ça ne change rien. Sarko était déjà cramé, glisse un député qui ne roule pas pour lui. Mais quoi qu'il en dise, cette condamnation est une déflagration pour la droite qui entre en zone de turbulence. Sarko, c'était un dôme doré au-dessus d'un champ de ruines, lâche un conseiller LR. Maintenant, il ne reste plus que le champ de ruines. Mais ce jugement ne fait pas que des malheureux, il laisse le champ plus libre aux autres éventuels candidats pour 2022, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou Bruno Retailleau, même s'ils compatissent dans les médias. Certains, pour autant à droite, ne peuvent pas se résoudre à tourner la page Sarkozy. Méfiez-vous, Sarkozy pourrait revenir encore plus fort, dit un conseiller qui espère son retour pour 2022.
Marie Mollet, alors avec nous en studio, Maître Jacqueline Lafont, l'avocate de Nicolas Sarkozy, rebonjour.
Bonjour.
Vous avez entendu Jean-François Bonner du Parquet National Financier, ce n'est pas une décision politique et l'enquête a été menée comme pour n'importe quel citoyen. Que lui répondez-vous ?
Alors, j'ai entendu le procureur national financier venir dire à votre antenne que le parquet ne faisait pas de politique. La défense ne fait pas de politique. Je pense qu'il est important de le dire, elle fait du droit et elle se sert d'outils qui sont les siens, c'est-à-dire la règle de droit, la jurisprudence, le code de procédure pénale et le code pénal. Et je voudrais saisir l'occasion d'être ici présente et de réagir à l'intervention de monsieur le procureur Bonner, ce qui est une chose assez rare. Bravo pour cette jolie recrue pour RTL. Eh bien, je voudrais juste dire que il y a quelque chose qui a beaucoup choqué l'avocate que je suis. Ça a été l'attaque en règle qui a été menée par le représentant du parquet national financier, M. Bonnert, en plein cours de délibéré sur la défense de M. Nicolas Sarkozy. J'ai été très étonnée, je me suis refusée pour
à quel moment quand vous dites en plein cours
juste avant le délibéré, une quinzaine de jours avant, il y a d'abord il y a une déclaration publique qui a été faite au cours de la rentrée solennelle. Il y a ensuite eu une interview accordée au journal Libération avec une mise en cause de la défense dans des termes dans lesquels je ne me suis absolument pas retrouvée, dans lesquels la défense ne s'est pas retrouvée, puisque encore une fois je le dis, nous avons fait du droit rien que du droit, et je ne sais pas très bien quel était le sens de cette démarche menée par le représentant du parquet national financier à la veille d'un procès qui allait être rendu, à la veille d'un jugement qui allait être rendu.
Mais écoutez, voilà. Le jugement, il fait 254 pages. Vous pensez que ça peut suffire à inverser le cours des choses, franchement ?
Alors, vous savez, 250 pages.
5 heures de délibération.
Je l'ai lu moi aussi pendant la nuit, ce jugement. Je l'ai lu pendant la nuit. Alors, sur les 254 pages, il y a 20 pages de motivation. Je crois qu'il est quand même important de le rappeler. Le reste, c'est un rappel des faits, c'est un rappel des éléments de la procédure, c'est un rappel des écoutes téléphoniques. Il y a 20 pages de motivation. Et il y a 2 paragraphes de motivation sur un élément essentiel de la démonstration juridique. Donc, vous voyez, en réalité, derrière les 254 pages, peu de choses nous concernent aujourd'hui et peu de choses sont à discuter.
Mais qu'est-ce que vous cherchez à nous dire ? Que c'est une décision politique ?
Je n'ai jamais dit cela.
Que le parquet national financier a instrumentalisé les juges du tribunal correctionnel ? Ce n'est pas le PNF qui a condamné Nicolas Sarkozy, c'est le tribunal correctionnel.
Je n'ai jamais dit que le PNF avait condamné Nicolas Sarkozy. Je dis que le PNF a été à l'origine de poursuites, à l'origine d'une enquête préliminaire cachée sur laquelle je n'ai pas entendu le représentant du parquet national financier s'exprimer ce matin. Et lorsqu'il vient affirmer sur votre antenne que le président Nicolas Sarkozy a été jugé comme n'importe quel justiciable, je pense que ce n'est pas exact. Et je l'ai entendu dire une chose et regretter, quelque chose que je regrette aussi, c'est le manque de moyens de la justice, le manque de moyens notamment du parquet national financier, qui n'est peut-être pas le plus dépourvu, mais qu'il est, comme tous les services judiciaires, ce que nous déplorons tous. Mais je voudrais dire que si manque de moyens il n'y en a pas eu concernant Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a eu une débauche de moyens le concernant.
Donc vous dites qu'il a fait l'objet d'un traitement de défaveur ?
Oui. Je dis qu'il a fait l'objet d'un traitement. En tout cas, je dis qu'il y a eu des moyens considérables qui ont été mis au service de la tentative de la démonstration de sa culpabilité, et notamment des moyens condamnables, sur lesquels le jugement ne se prononce pas, puisqu'il les balaie par une réponse qui est celle de l'irrecevabilité de notre demande. Et pour expliquer clairement à ceux qui nous écoutent, nous avons découvert une enquête préliminaire cachée, qui s'est faite contrairement à toutes les règles fondamentales de notre droit, qui nous cachait des éléments à décharge, qui démontrait que, contrairement à ce qui était affirmé dans notre affaire, il n'y avait pas eu de taupe, et qui nous a été caché, que nous découvrons après l'ordonnance de renvoi, et le jugement vient nous dire, eh bien, puisque vous la découvrez après, eh bien tant pis, elle est irrecevable. On nous cache quelque chose, et finalement, on ne peut pas s'en servir. Donc il n'y a pas eu de réponse à cela, et je n'ai pas entendu un mot sur ces méthodes-là, qui ont été utilisées par le parquet national financier. Et quand je dis le parquet national financier, je veux revenir sur ce que je dis, parce que je ne vise pas le parquet national financier. On nous a enfermés dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Je l'ai dit et je le redis, je n'ai jamais voulu mettre en cause le parquet national financier, j'ai voulu mettre en cause un dossier, des méthodes dans un dossier et une enquête qui est critiquable et qui est condamnable.
Maître Lafont, Nicolas Sarkozy a fait appel, donc dans quel état d'esprit est-il aujourd'hui ?
Il a fait appel, il est donc présumé innocent. Nous irons plaider devant les juges de la cour d'appel. Il est dans un état d'esprit qui est celui qui l'anime toujours. Il a à la fois du calme et de la détermination pour que la vérité éclate et pour que le droit soit appliqué.
Merci Maître Lafont, merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce journal. Une pause et dans un instant, la France élargit le champ de la vaccination.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
La France change de braquet sur la vaccination. Plus de trous dans la raquette. Les 65-75 ans atteints de comorbidité pourront bénéficier à leur tour du vaccin d'AstraZeneca. Ça représente 2,5 millions de personnes supplémentaires avec ce sérum-là. Très critiqué, Sophie Orange.
Oui, sauf que de nouvelles études scientifiques prouvent désormais l'efficacité du vaccin anglais, quel que soit l'âge. C'est un grand changement, car jusqu'à maintenant, les données complètes ne portaient que sur les moins de 65 ans. Que disent les chiffres ? Une étude écossaise porte sur plus d'un million de personnes vaccinées. C'est énorme. Au pic d'efficacité, soit 5 semaines après la première injection, la baisse des hospitalisations est de 85% chez les moins de 64 ans, 79% chez les 65-75 ans et 81% au-delà de 80 ans. Superbe nouvelle pour Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement. Une bonne surprise pour la Haute Autorité de Santé. Le vaccin d'AstraZeneca peut désormais être administré donc à tous ceux qui ont des facteurs de risque au-delà de 65 ans.
Et la Haute Autorité de Santé propose qu'à l'avenir, tous les vaccins puissent être administrés aussi par les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes.
Oui, c'est une façon d'accélérer le rythme, de contourner les embouteillages dans les centres de vaccination avec des standards saturés et des créneaux impossibles à réserver sur les plateformes de rendez-vous en ligne. Et pour la HAS, toutes les professions de santé devraient pouvoir injecter tous les vaccins. Pour le moment, le ministre de la Santé ne l'autorise pas. Seuls les médecins peuvent vacciner dans leur cabinet. Dans les centres, il y a bien des infirmiers, mais en présence d'un médecin. Car ce sont les personnes à risque qui reçoivent en ce moment les injections. Lorsque la population générale sera concernée, les règles vont sûrement changer.
Sophie Orange. Et depuis ce matin, pour se rendre en Allemagne, depuis la Moselle, il faut présenter un test négatif. 20 000 Français travaillent chaque jour outre-Rhin. Et ce matin, à Spicheren, près de Forbach, il y a beaucoup d'incompréhension chez nos concitoyens, Dimitri Ramelot.
Oui, sur le parking de la caserne de pompiers allemands, Nathalie est arrivée à 5h30. Pourtant, l'immense tente blanche dédiée au test est encore loin. Plusieurs dizaines de frontaliers devant elle attendent par moins un degré.
Là, j'ai prévenu ma chef que j'aurais du retard, elle est au courant, quoi. On n'a pas de temps à perdre à aller courir faire les tests.
Et de l'autre côté de la barrière, la file pour les tests en restant dans sa voiture. Beaucoup plus rapide, car peu de véhicules. Mais Luigi est en colère après avoir essayé de franchir la frontière sans test.
T'es ondé, non, essayer de passer. Voilà, ils m'ont dit non, pour une fois. Ça va, la deuxième fois vous avez une amende. Alors tout gentiment, j'ai fait marche arrière et je suis venu ici.
Et chacun de remplir un questionnaire, nom, prénom, date de naissance, raison du déplacement, l'impression pour Marc, 57 ans, d'être stigmatisé.
Les Allemands viennent en France comme ils veulent, ils nous ont des pestiférés, nous. Hier, je suis rentré à 22h30, et je me suis levé ce matin, il était 5h pour faire le test, quoi. Et comme il est que valable 48 heures, ben, jeudi matin, je dois refaire la même chose.
Puis c'est l'heure du test nasal ou salivaire, au choix effectué par des soignants allemands en combinaison blanche intégrale.
Ça se fait dans le nez ou dans la bouche? C'est ça. Les résultats, on peut scanner le QR code et on reçoit le résultat. 25 minutes.
Et alors que le soleil n'était pas encore levé, des dizaines de frontaliers ont attendu jusqu'à 40 minutes le résultat du test à l'autre bout du parking avant de pouvoir se rendre sur leur lieu de travail.
Un reportage Dimitri Ramelot à la frontière franco-allemande. Le préfet de Moselle donne un tour de vis supplémentaire. La consommation d'alcool sur la voie publique va être interdite dans les villes de plus de 10 000 habitants de ce département. Il faut tenir 4 à 6 semaines, disait hier Emmanuel Macron. L'Organisation mondiale de la santé affirme, elle, que le virus ne sera pas vaincu cette année, mais qu'on pourra en finir avec les morts, les hospitalisations et la tragédie. Un geste pour les télétravailleurs, les allocations versées par leurs employeurs seront exonérées d'impôts. Elle s'appliquera soit aux frais réels, soit aux allocations forfaitaires et représentera au maximum 550 euros pour l'année. Quant à la réforme de l'assurance chômage, très décriée par les syndicats, son entrée en vigueur vient de nouveau d'être repoussée du 1er avril au 1er juillet. La parole s'est libérée sur les abus sexuels dans l'Église et c'est une déferlante. Plus de 6500 témoignages ont été collectés par la commission indépendante et ce matin, son président Jean-Marc Sauvé a même évoqué un crime de masse dans l'Église et dans la totalité de la société, Marie Guerrier.
Oui, 5500 témoignages, à partir desquels la Commission évalue le nombre de victimes à 3000, mais c'est juste le sommet de l'iceberg, ceux qui ont osé briser le silence. 80% de ces témoignages concernent des victimes qui ont aujourd'hui plus de 50 ans pour des faits qui remontent majoritairement aux années 50 et 60. Des faits qui se sont produits essentiellement dans les établissements scolaires catholiques ou dans le cadre du catéchisme et de l'aumônerie. Chiffre terrible, les témoignages montrent aussi que 5% des abus ont eu lieu au domicile de la victime, les prêtres abuseurs accueillis au sein même de la famille. Cet appel à témoignages n'est qu'une petite partie du travail de la commission. Elle mène des auditions par dizaines, explore les archives des diocèses, des congrégations religieuses, du ministère de la Justice. Elle regarde aussi ce qui remonte des enquêtes dans d'autres pays. Et le président de la commission, Jean-Marc Sauvé, insiste sur l'ampleur du désastre.
Ces maltraitants sont frappés des groupes entiers de personnes chez nous comme dans les pays étrangers, et cela dans tous les milieux de socialisation. C'est une atteinte à l'humanité. Au travers d'une multitude d'actes menés en silence, ces crimes, qui sont des crimes de masse, ne peuvent rester sans réponse.
Et la Commission rendra en octobre un rapport avec des préconisations pour rendre justice aux victimes des abus sexuels dans l'Église et faire en sorte que ça ne recommence plus.
Marie Guerrier, un chauffeur grièvement blessé à Bordeaux par des tirs de la police alors qu'il voulait échapper à un contrôle routier qu'il venait de percuter un des véhicules de police. Une dizaine de balles ont été tirées. Les policiers se sont rendus compte ensuite que le chauffeur n'avait que 16 ans. Deux de ses passagers ont pris la fuite. L'un des deux a été rattrapé. L'inspection générale de la police nationale a été saisie. Dans un instant, le coup de cœur de nos correspondants qui est aussi celui d'une jeune femme pour son héros.
RTL. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Et comme tous les jours dans RTL Midi, nous partons en région.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
C'est un coup de cœur en forme d'avis de recherche. Une jeune femme, victime d'un accident de la route près de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, cherche son sauveur, celui qui l'a sorti du véhicule avant qu'il ne s'embrase. Raphaël Vantard.
Ah ouais, il y a un peu plus de deux semaines, Isabelle circule sur une route de Boas, dans l'Ain. Elle a un accident de voiture avec un choc frontal. C'est là qu'un homme d'une quarantaine d'années la secourt. Et vous l'avez dit, Christelle, surtout, il sort Isabelle de sa voiture avant qu'elle ne s'embrase. Avec l'arrivée des pompiers, elle a à peine le temps de prononcer le mot merci qu'elle se retrouve à l'hôpital. Consciente mais choquée, d'où son souhait aujourd'hui de retrouver son sauveur.
Il est arrivé vers moi, il m'a dit « ne bougez pas, en attendant que les pompiers arrivent ». Et du coup, comme il y a des flammes qui se dégageaient vers le moteur, il m'a aidé à sortir de la voiture en fait. Il m'a mis à l'abri dans sa voiture, il a pris mes affaires personnelles. C'est vrai que les pompiers sont arrivés, beaucoup d'agitation, les gendarmes. Et je lui ai dit merci comme ça vite fait, mais voilà quoi. J'aimerais bien rentrer en contact avec lui pour le remercier de vive voix et puis pouvoir échanger un petit peu. Parce que lui, du coup, je pense qu'il ne sait pas la suite aussi de l'histoire, entre guillemets.
L'appel est donc lancé. Isabelle l'a fait également sur les réseaux sociaux. Le sauveur est donc un homme d'une quarantaine d'années. Il avait apparemment un véhicule break. Promis, Christelle, je vous tiens au courant si le héros se manifeste.
Il y a intérêt. On espère qu'il nous écoute. Merci Raphaël. C'est donc le grand nettoyage de printemps à l'OM. Pablo Longoria est le nouveau président du club. Et le nouvel entraîneur venu du Brésil, Jorge Sampaoli, est arrivé il y a une heure à l'aéroport de Marignane en toute discrétion. Une dizaine de supporters seulement l'attendaient. Il disait « J'aimerais mourir vivant ». Il y a 30 ans, Serge Gainsbourg succombait chez lui d'une crise cardiaque rue de Verneuil, qui deviendra un musée dans les prochains mois. De la javanaise à Love on the Beat, en passant par la marseillaise, on a tous encore l'eau à la bouche, comme vous avez pu le constater, Marine Klett, dans les rues de Paris.
On a tous quelque chose en nous de Gainsbourg, une chanson préférée. Il y a 20 ans, dans la chambre d'Annabelle, il y avait ça.
C'est le requiem.
Ça me rappelle des bons moments. Alors peut-être parce que c'était pour un con et que j'étais une ado rebelle et que c'est cette chanson-là qui m'a marquée vraiment.
Chez Richard, qui rêvait de grands espaces, c'était plutôt l'hôtel particulier.
Il vous prend par la main, il vous fait rentrer dans l'hôtel, il vous décrit l'hôtel, l'intérieur, tout ça, la déco, l'ambiance, l'univers.
Des escaliers, des couloirs sans fin.
Marie-Claude, c'est 58 ans, dont 40 passés à écouter Gainsbourg.
Ce qui m'a marqué aussi, c'est la Marseillaise, quand il l'a reprise. Il lui a redonné le sens de cette chanson, une tendresse dans la façon dont il parlait. Moi, Gainsbourg, comme Gainsbourg, j'adore.
Rebecca, elle, a 19 ans et son truc, c'est la poésie. Alors Gainsbourg, c'est évidemment la chanson de Prévert.
Elle est hyper différente de ses autres chansons. D'habitude, il est plutôt moqueur, plutôt virulent envers les femmes. Et là, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à quitter ses souvenirs.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes,
30 ans après sa mort, Serge Gainsbourg résonne toujours dans les chambres des adolescents, peut-être un peu plus calme qu'avant.
C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma?
Est-ce que c'était votre préférée, je crois, celle-là?
Non, moi j'aime bien, je suis venu te dire que je m'en vais, j'aime bien fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Bon. Ouais. Mais en revanche, il y a un paradoxe dans notre société que je m'explique mal. On célèbre aujourd'hui Gainsbourg, et tant mieux. C'est une époque, c'est des photos, c'est des chansons, etc. Mais à l'aune des critères d'aujourd'hui, il ne pourrait pas écrire une chanson, Serge Gainsbourg. C'est ça que ce paradoxe me surprend toujours. Les mêmes d'ailleurs, qui disent formidable, merveilleux, etc. Enfin, merveilleux parce qu'il
est déjà un grand provocateur. À l'époque, il était vécu comme tel. Hein.
Je suis d'accord avec vous, mais les Monencest aujourd'hui, ça serait au-delà. C'est-à-dire que ça serait le bannissement de sa carrière, c'est-à-dire de avec les médias qui sont des juges aujourd'hui, les Monencest, ça serait terminé. C'est-à-dire qu'on dirait plus de Gainsbourg. Fini. Bon. C'est ça qui m'étonne toujours le plus. Alors, on a adoré ces années-là, on en parle souvent ensemble, Christelle. La liberté, bien sûr, la créativité, l'insolence, bien évidemment. Mais je répète, vous avez vu les photos du Paris Match, le spécial Paris Match hors série de Gainsbourg, mais toutes les photos sont provocatrices. Les femmes, on peut considérer qu'elles sont dans une position qui n'est pas... convenable,
qui n'est pas
convenable. On peut considérer qu'elles sont mises, oui, qu'elles sont érotisées, qu'elles sont objetisées.
Et on peut trouver ça bien aussi.
Voilà. Ben, bien sûr, moi je trouve ça très bien. Mais à l'aune des critères d'aujourd'hui, vous dis-je.
Ben, en tout cas, le débat est intéressant. C'est un débat intéressant, hein, n'est-ce pas? Pourtant, la journée du compliment, c'était hier.
C'était bien.
Allez, à tout à l'heure, Pascal. La météo, Peggy Broche. Le mercure du thermomètre se croit fin avril.
Et oui, exactement, jusqu'à 20 degrés attendus quand même pour la maximale cet après-midi à Biarritz, 19 à Montauban, Bordeaux et Clermont-Ferrand, 18 à Lyon et Nevers, 17 à Paris, Nice et Nîmes, 16 à Nancy, Rennes, 15 à Lille et 10 à Cherbourg. Alors côté ciel, il fait encore très beau sur les trois quarts du pays, c'est plus voilé à l'ouest mais ça reste lumineux. Alors sauf sur le Finistère où là c'est vrai que c'est plutôt nuageux avec quelques gouttes possibles et puis le voile est quand même plus épais entre l'intérieur de la Bretagne, le Cotentin, Pays de la Loire jusqu'au Limousin cet après-midi. Et il reste allez, quelques entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent marin avec du vent jusqu'à 80 km/h en rafale.
Et rapidement, demain, on profite une dernière fois de cette grande douceur.
Oui, les températures seront stationnaires, donc encore toujours très douces. Et côté ciel, on aura encore du soleil, mais sur le nord-ouest, ça va se gâter, arriver de la pluie et des nuages.
Merci Peggy. À suivre le rappel des titres, il va être 13h sur RTL. Et bon appétit si vous êtes à table.
RTL. RTL.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Il était notre dernier auditeur hier, il n'avait parlé que quelques secondes. J'avais promis qu'il revenait aujourd'hui. C'est le premier auditeur, c'est Thierry. Bonjour Thierry.
Bonjour Pascal.
Comment avez-vous jugé ce jugement précisément sur Nicolas Sarkozy?
Écoutez, je vais vous le dire franchement, mal. Et j'ai honte pour ma justice, enfin la justice française.
Eh bien, nous allons développer cette idée, mais d'abord le rappel des titres avec Christelle.
Jean Castex veut y croire. J'ai l'espoir, dit le Premier ministre, contre la météo et la vaccination. On arrivera à sortir de cet entre-deux dans quelques semaines. La Haute Autorité de Santé recommande que tous les vaccins puissent être administrés, en plus des médecins, par les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes. La réforme de l'assurance chômage attendra encore un peu. Elle n'entrera en vigueur qu'au 1er juillet, encore partiellement. Le durcissement de l'ouverture des droits entrera, lui, en vigueur au plus tôt à l'automne, compte tenu de la crise économique dans laquelle nous sommes. Un chauffard grièvement blessé à Bordeaux par des tirs de la police alors qu'il voulait échapper à un contrôle routier. Il venait de percuter un des véhicules de police. Une dizaine de balles ont été tirées. Le chauffard n'avait que 16 ans. Deux de ses passagers ont pris la fuite. L'un d'eux a été rattrapé. L'inspection générale de la police nationale a été saisie. La cour d'assises de Paris juge en appel 13 jeunes accusés d'avoir blessé en 2016 4 policiers en incendiant leur voiture dans un quartier sensible de Viry-Châtillon. En première instance, 8 d'entre eux avaient été condamnés à des peines de 10 à 20 ans de prison par la cour d'assises des mineurs de l'Essonne.
Les auditeurs.